J'ai la joie de vous présenter le père Mathieu Rouget, qui va nous parler en ce début d'après-midi. Donc vous êtes prêtre du diocèse de Paris, curé de la paroisse Saint-Ferdinand des Ternes et professeur de théologie dogmatique et de théologie politique à la faculté Notre-Dame, au collège des Bernardins. Et parmi vos ministères antérieurs, vous avez deux expériences un peu qui sortent du commun et qui ont été certainement très enrichissantes. Vous avez d'abord été de 2000 à 2003 secrétaire particulier du cardinal Lustiger, puis nommé en 2004 directeur du service pastoral d'études politiques, ce qu'on appelle familièrement l'aumônerie des parlementaires. C'est un service que vous avez assumé pendant 9 ans et qui vous a permis, je crois, de rencontrer en profondeur de nombreux hommes et femmes de toutes tendances politiques. Vous avez publié au début de cette année un livre au titre audacieux « L'Église n'a pas dit son dernier mot, petit traité d'antidéfaitisme catholique ». Un livre qui analyse la situation du catholicisme en France. Et donc vous allez ouvrir pour nous la fenêtre politique de notre réflexion ce week-end et certainement nous faire partager aussi bien votre expérience que votre réflexion. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir laissé votre paroisse un samedi. Et nous vous écoutons avec joie sur l'Homo Politicus au tournant du millénaire.
Merci de cette introduction, merci de l'invitation à venir et de votre accueil. Ce titre est assez impressionnant, l'Homo Politicus au tournant du millénaire, d'autant qu'il s'inscrit dans votre réflexion plus générale, avec en particulier son sous-titre stimulant et prospectif, « La foi catholique produit-elle un humanisme pour aujourd'hui ?» Alors, qu'est-ce que c'est que cet Homo Politicus qu'on a mis dans le titre qui m'a été attribué ? Je voudrais introduire ces réflexions en donnant 3 significations possibles à cette expression « homo politicus ». La première, ça pourrait être de vouloir désigner les responsables politiques, les hommes politiques. Je préfère dire « responsables » pour honorer les femmes qui sont impliquées en politique. Nous avons en général un regard assez négatif à leur sujet, et il est vrai que l'actualité ne cesse de nourrir ce regard négatif jusqu'à tout récemment, il y a quelques heures, la démission forcée de M. Kader Arif, dont peu d'ailleurs avaient remarqué qu'il était secrétaire d'État aux anciens combattants depuis plus de 2 ans. Mais une sombre histoire de favoritisme dans des marchés publics l'a conduit à donner sa démission il y a donc quelques heures. Et de fait, quand j'étais aumônier du monde politique, les gens me disaient « tu dois avoir beaucoup de travail », s'imaginant en particulier que le ministère de la Confession était particulièrement lourd. Il y a clairement une crise de notre système politique, j'y reviendrai. Et puis, dans cette crise, plus sérieusement, nous le voyons bien, une incohérence théorisée de la part des responsables politiques. D'une part, entre la vie personnelle plutôt que privée et la vie publique, c'est une sorte de dogme qui serait indiscutable. Dans le contexte de l'affaire Strauss-Kahn, il y a eu quelques bonnes réflexions de Chantal Delsol sur le caractère non dogmatique de cette erreur. Et puis, plus largement, l'opposition, à partir de la distinction de Max Weber caricaturée et dévoyée entre éthique de responsabilité et éthique de conviction, mettant d'un côté les convictions personnelles et de l'autre la responsabilité politique. Cette distinction, elle est souvent durcie par les politiques et elle est souvent source de scandales et en tout cas de manque de confiance de la part des citoyens. Il y a quelques années, lors d'un débat au Bernardin, un responsable centriste qui fait partie de notre crypto-démocratie chrétienne à la française avait expliqué pourquoi un chrétien devait ne pas agir selon ses convictions. Nous avons un peu discuté sur ce sujet. Il a d'ailleurs fini par me dire « je vous rends les armes ». Troisième élément évidemment très marquant pour les responsables politiques aujourd'hui, plus profondément encore, ce sont les responsabilités éthiques inédites qui reviennent aujourd'hui aux politiques, qui sont appelés à voter sur des sujets au poids anthropologique gigantesque, pour lequel ils sont parfois peu préparés. Nous échangeions pendant le déjeuner avec l'un d'entre vous qui était étonné de voir sur certains sujets le manque d'acuité de certaines réflexions de la part de parlementaires qui ont le droit et la mission de voter la loi. Et clairement, il y a aujourd'hui une disproportion entre l'ampleur des sujets, mais est-ce que tous les sujets sont légitimement présentés à la représentation nationale, et le fait de devoir les voter et la compétence avec laquelle les voter. Donc voilà un premier aspect de l'homo politicus. De manière plus large et plus importante, évidemment, l'homo politicus, c'est chacun d'entre nous, comme animal social, comme personne vivant en société. Et clairement, aujourd'hui, nous vivons une crise de la citoyenneté, une crise du choix de vivre en société, que chacun, d'une manière ou d'une autre, doit assumer avec sa liberté et sa responsabilité, crise de la citoyenneté, qu'on voit affleurer en particulier dans le développement de l'individualisme, mais aussi des communautarismes, ces deux réalités, individualisme et communautarisme, étant en fait les faces d'une même médaille. Cette crise de la citoyenneté, on la voit aussi très clairement dans la violence diffuse ou exprimée qui caractérise les sociétés occidentales en particulier, mais pas seulement. Violence parfois contenue, mais qui éclate de plus en plus souvent. La crise de l'homme comme animal politique, elle est également prégnante dans ce qui a pu être qualifié de fracture sociale, mais qui est plus évoqué ou invoqué que profondément analysé pour pouvoir être, sinon résorbé, du moins apaisé. Donc l'homo politicus d'aujourd'hui, non seulement le responsable, mais aussi le citoyen, traverse une crise indiscutable. Il y a une troisième signification à cette expression homo politicus. Je ne sais pas si elle était anticipée par les organisateurs de ce colloque. C'est le titre d'un livre récent. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont eu entre les mains. Homo politicus, c'est un livre de Jean-Luc Romero, militant acharné de la cause homosexuelle et de l'euthanasie. Cette coïncidence, d'ailleurs, a quelque chose de significatif. Homo est pris, pour le coup, comme, évidemment, terme de ralliement des personnes homosexuelles et de la militance LGBT. Et je trouve que cette expression est ici significative de quelque chose de notre époque. D'une part, la place qu'ont pris dans les débats politiques les logiques de lobby et de groupes d'influence, le mouvement LGBT n'étant pas le moindre. Et il y a une vraie transformation de l'espace politique par l'implication si forte des lobbies, non seulement aux États-Unis et au niveau européen, mais aussi dans notre République française. Il y a ensuite le fait que la question si bouleversée aujourd'hui du rapport homme-femme est une des questions politiques majeures, et que la crise que nous vivons du rapport homme-femme est en fait l'expression d'une crise radicale de la vie politique, puisque la reconnaissance mutuelle et la coexistence délibérée de l'homme et de la femme est comme l'expression par excellence du choix de vivre en société. Et enfin, il y a dans la thématique de ce livre quelque chose du rapport essentiel à la vie jusqu'à son terme, mais la vie aussi en sa naissance, de la rencontre de l'homme et de la femme. Et donc, ce titre n'est pas ici mentionné de manière anecdotique, mais il exprime quelque chose des blessures et du coup des attentes de notre société. Avant d'aller plus loin dans l'analyse prospective et pleine d'espérance de la situation contemporaine, quelqu'un, l'un d'entre vous qui a eu la bonté de lire une partie de mon livre, je dis une partie parce qu'il a parlé d'une partie, mais peut-être a-t-il tout lu, me demandait si, quand je parle des politiques de manière relativement positive, je n'enjolivais pas délibérément la situation. Alors je le rassurais en disant que j'avais essayé de faire un travail sérieux et sincère, et que même si je ne manque pas de lucidité, je crois, sur les politiques, il y a aussi des politiques qui méritent notre estime et notre reconnaissance. Avant d'aller plus loin dans l'analyse, donc, et de l'analyse prospective, de la situation contemporaine de l'homo politicus, je voudrais faire un petit préalable méthodologique qui n'est pas seulement méthodologique. Il me semble très important, quand on parle de politique, et pas seulement de politique d'ailleurs, de ne pas en rester à une analyse subjective des comportements, et du coup souvent moralisatrice. Ce qui est en cause, ce n'est pas d'abord les attitudes des individus, en tout cas leurs attitudes morales, disons. Il me semble que c'est plutôt leur rapport au réel. Ce qui est déterminant dans la lecture de l'engagement, de la juste attitude politique, ce n'est pas des attitudes éventuellement défaillantes, mais plutôt un rapport aux réalités éventuellement insuffisantes. Et finalement, ça renvoie à la juste compréhension qu'on peut avoir du mot « conversion », « metanoiein » en grec. Je vous renvoie sur ce point un petit roman épistolaire, vraiment excellent, d'Alain Le Ninez, qui a publié aux Actes Sud une controverse de Bethléem, qui est un échange de lettres imaginées entre Saint Jérôme et Rufin d'Aquilée. Et dans le cadre de cet échange, il y a des controverses de traduction, et notamment sur la conversion, les métanoïa, et Jérôme, je crois, insiste sur le fait qu'il ne faut pas moraliser le mot conversion, et que la conversion, c'est changer d'avis pour changer de vie. Et je crois que c'est important de bien repérer que c'est d'abord le regard sur la réalité avant l'attitude qui doit être regardée. Alors pour donner du contenu plus perceptible à cette remarque, je voudrais donner un exemple qui n'a un intérêt qu'oblique par rapport à l'essentiel de mon propos. C'est la notion de service. On va dire et répéter que les politiques doivent être des serviteurs. Les prêtres aussi d'ailleurs, et chacun d'entre nous. Mais les politiques vont être des serviteurs. Et derrière ça, on dit il faut cultiver l'esprit d'abnégation, de dévouement, de service, servir la collectivité et non pas s'en servir, etc., etc. Et tout cela est bel et bon, mais me semble-t-il insuffisant par rapport à quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus opératoire pour que les politiques soient effectivement des serviteurs. Ce qui est en cause, c'est de bien comprendre ce qu'est la politique. La politique n'est pas une instance suprême dans la société, mais une instance régulatrice. Il y a beaucoup de choses qui sont plus essentielles dans la vie en société que la politique. Les échanges économiques, comme échanges humains, me semblent avoir plus de poids. La culture, encore davantage. Les relations humaines, l'amitié. Et la vie spirituelle, encore davantage. La politique est au service de toutes les réalités humaines pour qu'elles puissent se déployer de la manière la plus libre, paisible et féconde possible. Le politique n'est pas une instance suprême, mais une instance régulatrice. Et c'est très important pour nous de nous en souvenir, surtout nous Français, qui sommes excessivement fascinés par le pouvoir politique, sous sa forme de la monarchie absolue ou sous la République quasiment transformée en idole. Et d'ailleurs, un des messages chrétiens essentiels sur la politique, c'est d'éviter de la transformer en idole. Et aujourd'hui encore, y compris les grandes institutions internationales, s'attribue parfois un magistère qui donnerait à la responsabilité politique cette dimension d'instance suprême. Et vous voyez, il me semble que le plus important pour que les politiques soient les serviteurs, ce soit pas simplement de les exhorter à la vertu, mais de bien comprendre de quoi il s'agit. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a un vrai tempérament politique, c'est quelqu'un qui a le sens de la variété des composantes de la société, qui sait les faire se rencontrer, réfléchir ensemble, travailler ensemble et élaborer des projets qui font progresser la justice et la paix. Donc d'une manière plus générale, il me semble qu'aujourd'hui, il nous faut regarder les choses de ce point de vue-là, non pas nous désoler du manque de vertu des uns ou des autres, mais nous interroger sur les raisons objectives de la crise que nous traversons. Je voudrais vous proposer maintenant trois étapes de réflexion. On m'a demandé de parler de l'homo politicus, et en fait, je voudrais commencer par parler de l'homo le mot latin est très très mauvais et c'est juste pour que vous le reteniez, de politicus. L'homme dépolitisé. Je crois que c'est une des questions essentielles pour nous aujourd'hui. Après, dans le contexte de votre réflexion sur l'humanisme, le post-humanisme, le transhumanisme, je voudrais souligner que la nature humaine a les reins solides. Et enfin, proposer quelques réflexions sur le contexte finalement providentiel que nous connaissons aujourd'hui pour la proposition chrétienne. Alors d'abord, l'homme dépolitisé. Le pape François, lorsqu'il était encore archevêque de Buenos Aires, a eu l'occasion, pendant une homélie le jour de la fête nationale argentine, de déclarer « Le manque d'amour ne fait pas que nous déshumaniser, il finit par nous dépolitiser ». Et dans un contexte très différent, Michel Schneider, qui est un psychanalyste, dans un livre savoureux et suggestif que je vous recommande, qui s'appelle « Miroir des princes », dans la belle édition Café Voltaire de Flammarion, qui a publié quelques brûlots de l'ineffable Vincent Payon, dans ce livre sous-titré « Narcissisme et politique », Michel Schneider parle aussi de peuple dépolitisé aujourd'hui, dans notre contexte français en particulier. Je reprends la phrase du pape François. « Le manque d'amour ne fait pas que nous déshumaniser, il finit par nous dépolitiser ». Dans l'expression « manque d'amour », il peut y avoir la volonté de dire le déficit du choix fondamental que chacun doit ratifier librement de vivre en société. Mais il faudrait ne pas en rester à une interprétation moralisatrice, précisément. Et il me semble que ce qui est plus fondamental, c'est un rapport blessé au réel de la vie humaine en société. Et je voudrais l'évoquer en trois points. D'abord, le rapport à la nature humaine comme telle, ensuite à la vérité, et enfin au rapport homme-femme que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Quand on parle de nature humaine aujourd'hui, vous le savez, on suscite facilement l'hostilité. Je crois que l'année dernière, vous avez, dans un contexte analogue, réfléchi au droit naturel, et c'est une question qui n'est pas loin, évidemment. Typiquement, dès qu'on parle de nature humaine, surgit l'objection du biologisme. Parler de nature humaine, ce serait transformer l'homme en animal. Ce serait s'enfermer dans la nature en niant la place de la culture. Notre époque est paradoxale, elle est ambivalente, comme cela nous a été rappelé ce matin. Et à la fois, il y a la tentation de transformer l'homme en matériaux de laboratoire ou en sujet de communication, de consommation seulement. Et en même temps, dès que la personne humaine est présentée comme ayant une nature, on la repousse au titre que ce serait une sorte de matérialisation de la personne humaine. Et il y a aussi, dans les courants de pensée aujourd'hui, et notamment ceux qui sont très actifs dans le domaine du transhumanisme et du post-humanisme, un refus du corps humain. Je vous recommande sur ce point l'étude extrêmement riche de Jean-Claude Guibeau qui s'appelle « La vie vivante », où il a beaucoup lu et analysé les technoprophètes américains, et il cite certains d'entre eux qui considèrent le corps comme quelque chose d'extérieur à l'homme, finalement, de la viande. Il le met en anglais dans son texte français « meat ». L'homme n'est plus que « meat » dans sa corporéité. Évidemment, il y a là une grande pauvreté de culture philosophique à ne comprendre la nature humaine que de cette manière-là, mais c'est une réalité. Et voyez, avant même de voir de la mauvaise volonté chez les législateurs, chez ceux qui avancent sur un certain nombre de sujets, je crois qu'il y a cette crise intellectuelle autour de ce qu'est la nature humaine. Cette question, elle est essentielle, évidemment, et elle a été, à mon avis, admirablement présentée dans la deuxième encyclique sociale de Jean-Paul II, « Sollicitudo rei socialis », où Jean-Paul II, un texte qui mettait en... On était avant la chute du mur, qui mettait un peu en regard le monde libéral occidental et le monde communiste d'Europe de l'Est, insiste sur l'unité de la nature humaine comme catégorie morale et la solidarité comme vertu correspondante à cette catégorie morale. La solidarité que nous avons à vivre comme société, elle s'appuie sur la conscience d'une nature humaine commune. Expulser du champ de la pensée et du champ du débat la nature humaine, c'est s'exposer à ne pouvoir plus exercer une véritable solidarité politique. De ce point de vue-là, il y a un vrai paradoxe avec les grandes institutions internationales, Nations Unies, Union Européenne, qui sont faites pour exprimer l'unité de la nature humaine, pour favoriser la solidarité internationale, et qui, par toutes sortes de décisions, viennent précisément sans arrêt porter des coups à la conscience que l'on peut avoir de l'unité de la nature humaine, avec sans arrêt un travail de codification de la transgression éthique. Il y a là une des ambivalences de notre époque qui est extrêmement importante et qu'il nous faut regarder avec lucidité. De ce point de vue-là, le discours de Benoît XVI devant le Parlement allemand à Berlin il y a quelques années est extrêmement important. Il y souligne la nécessité de repenser un droit naturel pour qu'une base suffisante de solidarité paisible soit possible dans nos sociétés aujourd'hui. Deuxième élément de la dépolitisation de l'homme contemporain, son rapport à la vérité. Nous avons en tête le combat de Benoît XVI contre le relativisme, repris d'ailleurs par le pape François dans La Joie de l'Évangile. Il y a une formule assez forte sur l'idolâtrie de la subjectivité individuelle que constitue le relativisme. Et vous savez à quel point aujourd'hui la vérité est discréditée comme a priori dogmatique, avec le sens négatif que nous connaissons à ce terme, pourtant si beau quand il est bien situé. Je suis frappé de voir à quel point le refus de la vérité comme telle pénètre les esprits et les cœurs. Depuis que est sorti mon petit livre, je passe beaucoup de temps à en discuter à la demande des uns ou des autres, et j'étais frappé de voir des prêtres, des responsables de l'enseignement catholique, ici ou là, me dire « mais non, on ne peut plus parler de vérité aujourd'hui ». Le plus singulier dans ce domaine-là a été un débat que j'ai fait avec plusieurs centaines de jeunes patrons des Bouches-du-Rhône, avec Michel Rocard, Xavier Bertrand, un chef d'entreprise et le directeur de Sciences Po Aix, et qui, en réponse à un éloge de la vérité et de la recherche de la vérité que j'avais essayé de faire, a expliqué que son objectif à Sciences Po Aix était de former des hommes et des femmes qui savaient que la vérité n'existe pas, mais qui étaient capables, en toutes circonstances, de donner l'apparence de la sincérité. Il me semble qu'une telle expression n'a pas besoin d'être commentée. Pour vous garder éveillé malgré l'heure de l'après-midi, je pense qu'il y a, dans ce que la France a connu avec l'affaire Cahuzac, sur laquelle d'ailleurs Michel Schneider revient de manière très pertinente et savoureuse dans ce petit livre, de quoi percevoir quelque chose de notre rapport à la vérité. On était en pleine période de débat sur le mariage pour tous. Et donc, chaque fois qu'un député courageux disait « on ne peut pas nier cette vérité qu'un enfant naît d'un homme et d'une femme », aussitôt, la majorité des députés criaient au dogmatisme inacceptable, à l'obscurantisme, à l'intégrisme religieux, au crime de lèse laïcité. Pourquoi ? Parce que la vérité est quelque chose propre à chacun. À chacun, sa vérité. Et voici que ce cher Jérôme Cahuzac, dont d'ailleurs le métier est extraordinaire, puisque son travail essentiel était de donner l'illusion à des chauves qui n'avaient pas perdu leurs cheveux, et extrêmement rémunérateur, qui dit quelque chose aussi de notre époque. Eh bien, voilà que cet homme est voué aux gémonies parce qu'il a menti à la représentation nationale. Mais si, à un moment donné, sa vérité était de dire qu'il n'avait pas de compte en Suisse, parce qu'il lui semblait plus important de le dissimuler pour pouvoir continuer dans son travail, qu'il me disait d'ailleurs assez bien, eh bien, comment le lui reprocher à partir du moment où on a fait du relativisme le dogme par excellence? Et tout le monde, y compris les beaux esprits chrétiens d'ailleurs, a crié au crime de lèse-vérité après coup, mais personnellement, je pense que le mensonge de M. Cahuzac était beaucoup moins grave que le mensonge collectif de la loi Taubira, inscrivant dans la loi que le mariage pouvait être indifféremment l'union de personnes de sexe différent et de personnes du même sexe. Donc vous voyez ce rapport très paradoxal avec la liberté. Un, la vérité n'existe pas, mais on ne peut pas s'en débarrasser complètement. Et de ce point de vue-là, les cris contre le mensonge de Cahuzac sont une sorte de ultime réflexe de santé. C'est la conscience morale, même étouffée, qui fait valoir ses droits. Et en même temps, il faut aller plus loin. La vérité, elle est beaucoup plus lourde dans des décisions comme celle de la loi Taubira. Alors justement, j'en viens à mon troisième point sur cet homme dépolitisé, la question du rapport homme-femme, qui est d'ailleurs, vous le savez bien, l'arrière-fond réel du débat sur le mariage pour tous, qu'on voit avec toute la réflexion contemporaine, le débat autour des études de genre. Ce que je trouve extrêmement important et intéressant à ce sujet, c'est la volonté toujours de faire sortir de la nature humaine, ce que je disais tout à l'heure, de voir que cette question, vous savez que beaucoup d'éléments du protestantisme actuel ont explosé autour de cette question. Pour la première fois depuis des siècles, la conférence de Lambeth n'a pas pu avoir lieu cette année dans l'anglicanisme à cause de cela. Il y a un élément évidemment fondamental de la personne humaine dans son intégrité, mais je crois aussi, dans ce rapport homme-femme, en fait, un des éléments fondateurs du pacte social. Je vous recommande à ce sujet les réflexions très suggestives de Marie Balmary. Vous savez, c'est une psychanalyste, vous connaissez son texte sans doute sur le sacrifice interdit. Elle aime bien se mettre à l'écoute des grands textes structurants de la pensée humaine, notamment biblique, comme une psychanalyste écoute ses patients. Et elle a publié un texte dans la revue des Jésuites Projet qu'on trouve sur Internet qui s'appelle « Lire la différence des sexes ». Et je vous lis quelques expressions que je trouve très stimulantes. « La différence est au service de la relation qui n'est pas absorption de l'autre, qui est épreuve d'un manque qui appelle une alliance. Un homme ne sait jamais ce que c'est que d'être une femme, et réciproquement, il y a une inexpérience, une inconnaissance radicale entre eux. La différence des sexes apparaît comme le modèle premier, le paradigme de toutes les autres situations d'altérité. » Et elle ajoute, « Tu es un autre, je ne te sais pas, j'aime bien cette expression, « je ne te sais pas ». Grâce à cela, je peux te croire. Toute différence demande d'accueillir ce que l'autre dit sans pouvoir le vérifier d'après sa propre expérience. Il y aura une part de ta vie dont je ne saurai que ce que toi tu voudras bien m'en dire. C'est cela, se connaître bien mutuellement, se connaître sans se manger, se connaître par le croire, non par le savoir. » Et en fait, en poursuivant et en approfondissant sa réflexion, elle montre comment le rapport homme-femme est constitutif de la confiance nécessaire à la construction d'une société. Ce qui est en cause aujourd'hui dans le rapport homme-femme, c'est quelque chose d'essentiel pour la paix de notre société, pour qu'une société soit possible. Tout ce que je viens de dire sur les troubles de la nature humaine, sur la difficulté vis-à-vis de la vérité, sur la difficulté vis-à-vis du rapport homme-femme, n'est pas totalement nouveau, évidemment. Et je ne crois pas qu'il faille trop vite faire de chaque époque un moment absolument unique de l'histoire. Monsieur Fourcade, tout à l'heure, rappelait qu'il peut y avoir une sorte de lecture de l'histoire humaine comme les phases d'une histoire individuelle qui prête à critique. En revanche, peut-être ce qu'on peut dire aujourd'hui, et nous, dans la lumière de la théologie du péché originel, nous savons bien que la blessure de la personne par rapport à elle-même, à ce qu'elle peut connaître, et par rapport à son identité sexuée, a toujours été blessée, en tout cas depuis la chute. Mais ce qui est nouveau sans doute, c'est la manière dont elles sont aujourd'hui théorisées. Et ce que nous éprouvons, c'est, disons, qu'une pensée de la déconstruction conduit à une déconstruction de la société. Une pensée de la déconstruction n'est pas seulement un luxe d'intellectuel sans qu'il y ait de véritables conséquences. Une pensée de la déconstruction conduit à une déconstruction de la société. De ce point de vue-là, je vous renvoie au petit livre si réjouissant et stimulant de François-Xavier Bellamy, Les Déshérités, où il montre comment une idéologie de la déconstruction est derrière les errances, disons, de l'éducation aujourd'hui. Cela dit, cet homme dépolitisé, eh bien, il n'est pas dans un état désespéré. Et voilà pourquoi je vous propose une deuxième série de réflexions que j'intitule « La nature humaine a les reins solides ». Et le mot « rein » peut être pris de toutes sortes de manières pour évoquer la transmission de la vie ou évoquer aussi la profondeur de l'être. Dieu sonde les reins et les cœurs. Michel Schneider, dans ce petit livre, dit à propos du miroir trouble des communicants, qu'il analyse et critique de manière savoureuse, « Consolons-nous en considérant que les faits sont têtus et que le boomerang du mensonge frappe ceux qui avaient cru le manier contre la vérité. » Le boomerang du mensonge frappe ceux qui avaient cru le manier contre la vérité. J'ai évoqué, pour commencer dans mon paragraphe précédent, la question de la nature humaine. Et le rapport très difficile aujourd'hui de beaucoup de nos contemporains vis-à-vis de l'homme corps et cœur. Mais en réalité, le travail politique quotidien de beaucoup de responsables est un souci des corps et des cœurs. De quoi s'occupent les politiques, de retraite, de problèmes sociaux, de migrants, de logements, d'économie, de catastrophes humanitaires. Au fond, les politiques aujourd'hui sont appelées à faire tout ce que l'évangile de demain énumérera, nourrir, abreuver, la grande question écologique de l'eau, vêtir, loger, accueillir les étrangers, etc. Il y a une sorte de prégnance de la réalité humaine, au-delà de débats que je ne nie pas, de type bioéthique, de nouveaux débats éthiques sur l'homme augmenté, etc., etc., qui sont des vraies questions et qui ont déjà des conséquences prégnantes avec le nombre d'enfants nés de fécondation in vitro, etc., etc., ou également les nés avec les problèmes de GPA et compagnie. Mais tout ça, je ne le nie pas. Mais malgré tout, l'homme réel impose ses droits aux responsables politiques. Et je trouve important, vous voyez, de se donner du courage à trop bon compte, mais en même temps de ne pas se laisser aller à une sorte de terreur eschatologique. Nous serions entrés dans une ère de glissement anthropologique que nous serions incapables de maîtriser d'aucune manière. L'essentiel de la vie humaine reste marqué par une prégnance de la nature humaine telle qu'elle se donne. Des personnes qui sont corps et cœur, hommes ou femmes, qui transmettent la vie, qui l'accueillent et qui ont des problèmes à la fois d'éducation et de vie quotidienne à régler. Je dis au passage que, de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée dans le monde politique de faire de la suppression du cumul des mandats le moyen enfin trouvé d'une classe politique totalement à la hauteur des enjeux. Il me semble, au contraire, que le cumul des mandats, loin d'être interdit, devrait être obligatoire, au moins à une phase de la responsabilité politique, au moins de manière successive. Je ne dis pas qu'il peut y avoir le cumul de mandats exécutifs qui soit de mauvaise aloi, mais je pense que c'est une des forces des politiques dans leur responsabilité, telle que je l'ai décrite tout à l'heure, d'avoir cette expérience de terrain de la nature humaine telle qu'elle se donne. Le risque est très grand si l'on supprime cette possibilité d'articuler des mandats locaux et des mandats nationaux, de perdre ce sens, quelque chose de ce sens des réalités. C'est un petit peu comme le risque de faire de la théologie sans avoir d'expérience pastorale. Deuxième réflexion sur cette nature humaine qui a les reins solides, autour de la splendeur de la vérité, pour reprendre le titre de l'encyclique de Jean-Paul II. Comme je l'ai évoqué il y a un instant, à partir de cette histoire Cahuzac, on ne peut pas se débarrasser si facilement de la vérité. Je crois que le refus théorisé de la vérité, le relativisme théorisé et même assimilé, le relativisme ordinaire dans lequel nous vivons, est sans doute une des raisons de la crise de l'éducation. Beaucoup d'entre vous sont éducateurs et donc je pars sous leur contrôle, mais je pense qu'on traite la crise de l'éducation nationale constamment en termes de budget, de transformation un peu anecdotique des programmes, et qu'à partir du moment où on a théorisé le fait qu'il n'y a pas de vérité à transmettre, eh bien le système ne peut être qu'en crise. D'ailleurs, François-Xavier Bellamy, dans le livre que j'évoquais, Les Déshérités, dit « Surtout ne disons pas que l'éducation nationale a échoué, au contraire, elle a réussi dans la mise en œuvre d'un projet déconstructiviste de la transmission du savoir. » Cela dit, les professeurs ont beau être prisonniers d'un modèle déconstructiviste, ils passent leur vie à transmettre des vérités. Peut-être pas suffisamment, peut-être pas exclusivement, mais ils transmettent des données historiques, géographiques, ils font tout de même lire des textes réels, ils apprennent à s'exprimer. Et donc, au-delà d'un certain refus de la vérité, comme le dit d'ailleurs Vatican II dans la déclaration sur les libertés religieuses, s'impose par elle-même, par la seule force de la vérité. Vous voyez, la nature humaine créée est plus solide que nous le croyons, et la vérité, et le goût de la vérité qui nous habite, est plus fort que ce que nous pourrions croire. De ce point de vue-là, il y a, me semble-t-il, une question qui se pose. Le rapport des chrétiens à la politique est fortement pensé. C'est toute la thématique de Maritain dans l'humanisme intégral, y compris avec ce qui est dans l'appendice de l'humanisme intégral sur agir en chrétien et pas en tant que chrétien, et dont on a fait sans doute parfois un usage excessif et caricaturé. Mais nous partons du fait que, pour les chrétiens, l'élément de la décision politique qui convient, c'est la raison. Et que les chrétiens eux-mêmes en politique n'ont pas à agir de manière immédiate selon leur foi, mais selon la raison. C'est un des grands thèmes de la très abondante production de théologie politique de Joseph Ratzinger et de Benoît XVI. Mais aujourd'hui, certains pourraient dire, la rationalité est tellement en crise qu'on ne peut plus tenir cette position. Il n'y a plus suffisamment de consensus rationnel pour pouvoir prétendre défendre le bien commun avec les seules armes de la raison. Et il pourrait y avoir une sorte de pensée politique communautariste qu'on voit affleurer peut-être ici et là chez certains auteurs de la radicale orthodoxie comme Cavenot, qui devraient renoncer à ce pari en faveur de la raison droite. Et il me semble que même s'il faut être très lucide sur le contexte qui peut rendre très difficile l'usage de la raison droite dans l'espace politique qui est le nôtre, que ce pari sur la force de la vérité et sur la capacité de la raison humaine à la chercher doit être maintenu en ayant un sens du réel des circonstances, en cherchant de nouveaux modes d'approfondissement et de pédagogie, mais en ne perdant pas cela. C'était d'ailleurs un des éléments de l'encyclique « Foi et raison ». Ne désespérez pas, disaient les chrétiens, au monde pluraliste, des capacités de la raison. Comme le temps passe, je voudrais passer directement à ma troisième partie, à mes troisièmes séries de réflexions sur le contexte, en fait, me semble-t-il, aujourd'hui providentiel pour la proposition chrétienne. Parce que la situation dans laquelle nous sommes, ce n'est pas un monde qui fonctionnerait de manière autonome et un christianisme en crise, c'est un monde en crise dans lequel le christianisme a à se situer et à faire valoir sa grâce. Et donc, dans ce contexte-là, les chrétiens ont un grand champ pour apporter des propositions. Et la première chose que je voudrais dire ici, c'est qu'il me semble que nous devons, pour être dans cette logique d'un humanisme renouvelé auquel les chrétiens et les catholiques peuvent apporter leur contribution, être davantage un catholicisme de proposition. Je le dis de plusieurs manières. C'est très important que les catholiques soient mobilisés pour défendre un certain nombre de valeurs éthiques. C'était important hier, ça le demeure aujourd'hui et ça le demeurera demain, et même des combats apparemment perdus sont décisifs à mener. Donc je n'oppose pas du tout le fait d'avoir des propositions et le fait de défendre des positions éthiques. Mais il ne faut pas se contenter de défendre des positions éthiques. Et je pense qu'aujourd'hui, notre catholicisme français n'est pas assez actif dans la proposition à une société qui les attend. Pour exprimer cela, je vous raconte une petite anecdote qui permettra à ceux d'entre vous qui se sont assoupis de se réveiller agréablement. Mais de mon regard de professeur, la plupart de ceux qui dormaient tout à l'heure, je ne leur en veux pas, j'ai beaucoup dormi en cours ou dans des conférences, se sont plutôt réveillés. Il y a quelques années, il y a eu une mission d'information parlementaire sur la famille et le droit des enfants qui a conduit la majorité d'alors, qui n'était pas celle d'aujourd'hui, à se caler contre le mariage entre personnes de même sexe, ce qui n'était pas du tout acquis dans la pensée de celui qui serait le candidat puis le président en 2007. Et cette mission d'information parlementaire a travaillé de manière extrêmement approfondie. Au point de départ, c'était une initiative idéologique pour forcer la marche vers le mariage entre personnes de même sexe, et puis le travail de vérité, de rationalité, qui a été bien mené par l'institution parlementaire, a conduit à faire un état des lieux remarquable sur la famille, vite oublié, comme malheureusement souvent des rapports même bien faits, et a conduit aussi, à ce moment-là, à caler la majorité de l'époque sur une position saine concernant le mariage. Il se trouve que dans la mission qui était la mienne à cette époque-là, j'avais souvent au téléphone la rapporteure, comme on dit élégamment désormais, et nous parlions, voyant en toute liberté et confiance, et donc elle pensait un peu à haute voix devant moi. Elle avait eu l'idée qu'il fallait naturellement entendre les religions, elle voulait faire ce qui a été fait pour la loi sur le mariage pour tous, une table ronde où en une heure on interviewe toutes les religions et puis l'affaire est faite. Et parce que nous échangeions beaucoup, je lui avais fait valoir qu'il fallait ne pas faire cela, entendre les religions successivement, que les religions ne sont pas toutes des religions exactement de la même manière, que le mot religion est sans doute plus analogique qu'univoque. Et elle s'était pliée à mes raisons, mais m'avait ajouté, quand la personnalité catholique viendra, dites-lui bien que n'attendons pas seulement des objections éthiques par rapport à certaines transgressions, mais aussi des propositions. Parce que notre mission est en attente, est en mal de propositions. Et comme on ne sait pas encore trop quoi proposer, si vous venez avec des propositions, nous serons trop heureux de les reprendre à notre compte. Vous voyez, c'est une constante du débat, des travaux parlementaires notamment, et pas seulement, c'est que si on n'a pas de proposition, eh bien pour justifier l'existence d'une commission, on va botter en touche, ou en tout cas se permettre la facilité de transgression éthique. Au moment de la révision de la loi de bioéthique, il y a eu un groupe de travail au Conseil d'État, qui a travaillé pendant 3 mois, et le rapporteur, cette fois-ci c'était un homme, du groupe m'a dit le fruit de notre réflexion, c'est qu'il ne faut rien toucher à la loi de bioéthique. Mais a-t-il ajouté, tout chrétien bontain qu'il était et qu'il demeure, sans doute, je ne peux quand même pas avoir fait travailler 30 conseillers d'État, et 30 le mot conseiller d'État, évidemment, c'est l'aristocratie suprême de notre République, c'est le véritable rassemblement des ducs et pairs de France aujourd'hui. Je ne peux quand même pas avoir fait travailler 30 conseillers d'État pendant 3 mois pour rien. Résultat des courses, stimulé par un ou deux mauvais génies dans ce groupe d'élite, eh bien, ils ont pris position en faveur de l'ouverture complète de la recherche sur l'embryon. Ce qui, à l'époque, n'a pas été retenu par la représentation nationale, d'ailleurs, grâce à l'implication courageuse d'un certain nombre de députés. Et de l'exécutif aussi, d'ailleurs, il faut lui en savoir gré. Alors, je reviens à mon groupe sur la famille, le droit des enfants. Je dis ça à la personnalité ecclésiastique en question, en lui disant, si vous voulez, d'ici la semaine prochaine, je peux faire travailler 2-3 personnes pour que vous veniez sous le coude avec quelques propositions. Il me dit, non, t'inquiète pas, je me débrouillerai. Le jour venu, il va faire son audition. On lui dit, vous avez la parole. Il exprime la position éthique de l'Église sur le mariage de manière fort bienvenue. Et puis, la position catholique marche toujours très bien, parce qu'après un juif, un musulman, on manie toujours plus spontanément le respect des personnes, quel que soit leur chemin, et la position éthique éventuellement ferme. Et puis, la rapporteure lui a dit, monsieur l'évêque, avez-vous des propositions? Et là, grand silence. Pas de proposition. Et il me semble que c'est un peu une parabole. Oui, vous êtes en train de dire, cet évêque, quand même, il n'est pas bon. Mais c'est un peu une parabole de ce que nous sommes tous, les catholiques en France. Impliqués sur un certain nombre de valeurs, et nous avons raison, et il faut continuer, mais pas assez capables de proposer. Ce que je dis est un peu injuste. Je pense que dans le domaine caritatif, et aussi dans le domaine éducatif, il y a une véritable force de proposition. Mais je crois qu'elle pourrait être beaucoup plus large, et s'étendre notamment au champ culturel et de la communication. Mais, vous voyez, cette expertise en humanité que l'Église s'attribue volontiers à elle-même, eh bien, je crois qu'elle est souvent en attente de déploiements plus larges et plus sensibles. Et là, pour le dire de manière plus théorique, disons, je crois que c'est un vrai enjeu d'une théologie politique pour aujourd'hui, ou d'une théologie du politique pour aujourd'hui, c'est de sortir de l'enfermement dans une posture exclusivement critique. Henri-Jérôme Gaget, naguère doyen de la faculté de théologie de la Cato de Paris, a fait un très bel article sur ce sujet, en relisant la théologie politique depuis Carl Schmitt, et en montrant comment elle est toujours un peu exclusivement dans une posture critique, qui est en gros de dénoncer le risque d'idolâtrie du politique au nom de l'affirmation du monothéisme trinitaire. Mais sans doute faut-il aujourd'hui, et c'est justement le caractère providentiel de notre époque, aller plus loin, parce que comme notre époque vit une forme de dépolitisation qui peut aboutir à une véritable violence, eh bien ce travail de proposition, il n'est pas uniquement sur des mesures particulières, il est sur la vie politique elle-même, et du coup le regard théologique sur le politique est acculé à sortir d'une posture exclusivement critique pour entrer dans une capacité de proposition. Deuxième chose que je voudrais dire par rapport après ce catholicisme de proposition que j'appelle de mes voeux, c'est que nous avons à résister au complexe de la religion. C'est d'abord très important dans notre contexte français de ne pas nous enfermer dans une surinterprétation de la laïcité. La laïcité française, quoi qu'il en soit des intentions de ses promoteurs au début du XXe siècle et de ses défenseurs, de certains de ses défenseurs au début du XXIe, est une séparation institutionnelle entre les églises et l'État. Ce n'est pas une séparation globale entre l'église et la société. Même s'il est juste dans le champ politique de s'impliquer davantage en chrétien qu'en tant que chrétien, il est tout à fait légitime de s'exprimer et d'agir aussi en tant que chrétien dans notre société française. Et il y a aujourd'hui bien des catholiques français qui sont plus laïcistes que les promoteurs officiels de la laïcité. Il y a comme un syndrome de Stockholm auquel nous avons succombé collectivement en donnant une place excessive à la laïcité. Et je crois qu'il faut vraiment en prendre conscience. Je crois aussi que c'est important d'avoir conscience que l'exclusion du religieux de la sphère publique fabrique du religieux refoulé. J'aimerais reprendre cette conversation, je l'ai déjà eue il y a quelques années, avant qu'il soit ministre, avec M. Cazeneuve. Aujourd'hui, la réponse au départ de jeunes Gaulois de nos campagnes au djihad ne peut pas être purement sécuritaire et policière. C'est le boomerang de Michel Schneider. Le religieux refoulé de la société française lui revient en pleine figure. Et aujourd'hui, même vis-à-vis de l'islam politique, la réponse ne peut pas être simplement de serrer les verrous de la laïcité. Elle est sans doute, et même sûrement, d'affirmer clairement un certain nombre d'éléments structurants de la société française pluraliste, mais elle est aussi de laisser sa juste place à la religion dans l'espace public. J'ai pas le temps de développer davantage. Et pour le dire autrement, il me semble que nous avons aujourd'hui à poursuivre en acte ce dialogue si extraordinaire entre Habermas et Joseph Ratzinger à l'Académie de Bavière sur les fondements pré-politiques de la politique et l'affirmation d'Habermas avec tout le trajet philosophique qui a été le sien sur l'apport des religions à la vie en société et sur l'écoute nécessaire. Il a même approfondi et intensifié sa position depuis ce dialogue avec Ratzinger des religions pour la survie de la société politique. Et tout cela, évidemment, s'inscrit déjà dans le sillage de Vatican II et fait écho à ce que disait de manière très suggestive tout à l'heure Michel Fourcade sur le fait que chaque concile œcuménique ouvre une nouvelle époque de l'humanité. Alors, je voudrais, et ce sera le troisième et dernier point, et en même temps la conclusion de ma troisième série de réflexions sur le contexte providentiel que nous vivons aujourd'hui pour la proposition chrétienne, évoquer la leçon que le cardinal Lustiger a donnée à l'université d'Augsbourg en novembre 1989. Il devenait docteur honoris causa de cette université. C'est sans doute un de ses textes les plus forts, dont le refrain paradoxal est « Nous sommes au commencement de l'ère chrétienne ». Il prononce ce discours le 17 novembre 1989, et nous sommes bien payés en cette année de commémoration pour savoir que c'était donc une semaine après la chute du mur de Berlin. Ce qui me semble intéressant dans cette vision, et que développait le cardinal, c'est de dire « Nous sommes face à des choix éthiques inédits ». Et donc, la parole chrétienne pour éclairer, pour féconder ces choix éthiques, reçoit une pertinence qu'elle n'a jamais eue à ce point dans l'histoire. Là, je prendrai une petite distance par rapport à ce que nous disait Michel Fourcade. Je pense que l'humanité n'est pas acculée à aller nécessairement jusqu'au bout de toutes les expériences les plus blessantes pour elle. Et de ce point de vue-là, en dépit de Nagasaki et Hiroshima, je trouve que le rapport que l'humanité a maintenu. Alors, nous ne savons pas ce qui se passera avec l'Iran, avec la Syrie dans les années qui viennent. Mais malgré tout, il y a une forme de maîtrise de la puissance nucléaire depuis 50 ans qui a quelque chose de stimulant pour voir que une forme de responsabilité éthique collective est possible. Ne serait-ce que parce que le désir de survie peut l'emporter sur la folie. En tout cas, cette remarque du cardinal Lustiger me semble extrêmement stimulante. Nous sommes dans une époque où le discernement chrétien est sollicité comme jamais. De ce point de vue-là, il me semble important que nous sortions, c'est ce que j'appelais le complexe de la religion tout à l'heure, que nous sortions d'une propension à nous excuser souvent d'être catholiques, à nous excuser d'être chrétiens. Il me semble que nous avons surtout à nous excuser de ne pas l'être assez, et de ne pas l'être assez profondément, bien sûr. Non pas pour entrer dans une posture militante, intolérante ou quoi que ce soit, mais pour assumer paisiblement et joyeusement la fierté d'annoncer la lumière qui vient du Christ. Le Concile Vatican II n'est pas le concile de l'effacement du christianisme. C'est un concile missionnaire par excellence. Évidemment, il exprime, et c'est toute la difficulté de l'interprétation de Vatican II, mais de ce point de vue-là, l'encyclique de Jean-Paul II, Redemptoris Missio, ouvre de belles pistes, que le dialogue et la mission marchent ensemble. Mais il me semble vraiment très important de ne pas nous enfermer dans une sorte de posture si discrète qu'elle ferait obstacle au rayonnement de la lumière du Christ. Et ce qui peut nous faire progresser toujours dans ce point, c'est, comme je le disais dans mon petit préalable méthodologique, pas d'abord une interrogation sur nos capacités morales insuffisantes à être témoins du Christ, mais c'est la réalité de ce qu'est la lumière du Christ, qui est le progrès par excellence, qui est la nouveauté par excellence, à côté de laquelle toutes les nouveautés pâlissent. C'est tout le sens du Qohélète dans l'Écriture sainte, rien n'est nouveau sous le soleil. Oui, rien n'est nouveau sous le soleil, sauf le Christ. Le Qohélète est l'annonce en creux de la nouveauté chrétienne. C'est, Michel Fourcade a évoqué plusieurs fois le Père de Lubac ce matin, c'est le refrain de l'œuvre du Père de Lubac, reprise à Irénée, « Omnem novitatem attulit, semet ipsum afferens », il a apporté toute nouveauté en se livrant lui-même. Alors il me semble que la chance de l'homo politicus au tournant du millénaire, c'est cette éternelle nouveauté du Christ.
Merci beaucoup, Père, pour cet exposé qui fait honneur au titre de votre livre. Merci d'avoir, pour la première partie, au lieu de déplorer les manques de vertu, arriver à nommer les causes objectives. Ça nous donne aussi des possibilités d'action. Et puis pour toutes ces perspectives ouvertes et cet encouragement à déployer cette expertise en humanité de l'Église. Merci beaucoup. Peut-être que... Alors, nous aurions encore le temps pour une ou deux questions que ça aurait suscité dans la salle. Oui.
Merci, mon père, pour votre superbe conférence. Il y a la troisième partie m'a beaucoup plu, à savoir sur les propositions. Voilà, vous nous envoyez, si je puis dire, en mission pour proposer en tant que chrétien. C'est très bien. Concrètement, là où nous sommes, à notre place, à qui proposer ? C'est bien beau, il faut avoir des propositions, mais à qui proposer, surtout face à tous ces lobbies qui finalement nous cachent la vue et surtout nous empêchent de dire ce que l'on veut dire.
Vous savez, la proposition, elle est d'abord en acte. Et dans l'histoire récente, je disais que quand même dans le domaine caritatif en particulier, il y a beaucoup de propositions qui ont porté. Prenez un exemple, c'est, je pense, la place que Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu ont eu dans l'Église, mais aussi dans la société, et très largement pour renouveler totalement le regard sur le handicap mental. J'ai fait intervenir Marie-Hélène Mathieu devant 300 parlementaires, elle leur a, enfin 300 élus, pardon, parlementaires et élus locaux. Elle leur a raconté le premier pèlerinage de foi et lumière à Lourdes. Et c'est extraordinaire quand elle raconte cela en 1971. Aucun évêque n'avait accepté d'aller présider ce pèlerinage. Finalement, l'évêque de Lourdes s'y est collé. Tous les marchands de Lourdes, et de ceux qui sont nombreux et heureux de profiter des pèlerinages, avaient baissé leur rideau de fer. Le préfet avait réquisitionné les parachutistes de Tarbes. La ville était en état de siège. Les fous allaient débarquer. Et puis, la profondeur, la qualité de l'événement ont fait que les cœurs sont ouverts et les rideaux des magasins aussi. Et les parachutistes ont réintégré leur cantonnement. Vous voyez, l'action d'un Jean Vanier, d'une Marie-Hélène Mathieu, ont profondément changé le regard sur le handicap mental. Alors pas au point, il est vrai, d'éviter la dérive eugénique que nous connaissons, mais malgré tout a abouti à quelque chose. Et qui a contribué, y compris à des politiques publiques plus attentives, de lieux de vie, de lieux de formation, etc. Donc je crois que c'est surtout par l'action que une capacité peut ensuite produire des fruits plus larges, et qui peut avoir des conséquences politiques. De ce point de vue-là, le domaine caritatif est particulièrement fécond. Je pense à ce que fait le père Petitclerc avec les jeunes de banlieue, qui est aussi très repéré comme emblématique de pratiques efficaces et ajustées, ou ce que fait le père Bernard Devers en matière de logement social avec Habitat et Humanisme, qui a un grand déploiement. L'un et l'autre ont été appelés à participer à des lieux de décision publique. Jean-Guilhem Xéry, que vous recevrez ce soir au Captif à la Libération, c'est aussi un rapport au monde de la rue qui est repéré comme fécond. Et Jean-Guilhem est du coup membre du Conseil national de lutte contre l'exclusion. Vous voyez, je pense que c'est souvent l'action qui ensuite permet de donner un poids à des propositions. Et comme il y a une attente de réponses concrètes à des problèmes qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte, eh bien, de telles actions peuvent porter du fruit.
Merci pour ton exposé. Je voudrais revenir sur un point que tu as mentionné dans ta première partie, comme étant sous-jacent à pas mal de questions aujourd'hui, la difficulté autour du rapport homme-femme. Et une question que je me pose depuis longtemps, et je te la pose à toi, mais à travers toi aussi aux personnes du monde politique que tu côtoies. Bien sûr, il y a certainement des courants idéologiques qui veulent faire bouger des frontières que nous, on considère comme naturelles sur cette question-là. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi, derrière cette question, le fait qu'on a du mal à avancer sur une vraie égalité socio-économique entre l'homme et la femme dans le monde d'aujourd'hui, et que, du coup, sur ce terrain-là, finalement, il influe aussi, enfin plutôt cette question sous-jacente qui est finalement assez pratique, mais sur laquelle on progresse peu ou très lentement, est-ce qu'elle n'est pas aussi un des moteurs de ce débat? Et du coup, j'aurais une deuxième question. Est-ce que dans ce domaine aussi, le catholicisme n'est pas un peu faible en proposition?
Alors, merci de cette question. Premièrement, je pense que sur cette question du rapport homme-femme et de toutes les évolutions sociétales qui y sont liées, c'est important de voir à quel point le combat est d'abord intellectuel. Et à quel point l'avancée violente et rapide d'un certain nombre de revendications est portée par un travail intellectuel extrêmement abondant. Et nous, quand nous pensons aux universités américaines, nous sommes toujours un peu prisonniers de l'idée des néoconservateurs, de ceux qui ont théorisé la guerre en Irak, etc. Mais c'est vraiment dans un certain nombre d'universités américaines, je pense en particulier à Johns Hopkins, que des groupes de travail ont travaillé énormément, les gender studies, évidemment, tous les disciples de Judith Butler, etc. Et donc, il y a un vrai combat intellectuel. Et je pense que la construction intellectuelle d'une réflexion philosophique et sociale sur le rapport homme-femme qui ne soit pas prisonnier des mêmes idéologies que les gender studies de Butler et compagnie, eh bien, est une urgence. De cette manière, la première défaite dans ce domaine-là est une défaite intellectuelle. Ensuite, je crois que sur le fond, cette question de l'égalité, elle est justement un argument à mobiliser contre ce qu'il y a d'erroné dans certaines gender studies. Ce que fait remarquablement Sivan Agazinski, qui, par exemple, je vous recommande, si vous êtes intéressé par cette question précise, son étude qui est dense et difficile, « La femme entre sexe et genre », qui est paru, je crois, aussi dans la même édition chez Flammarion, et où elle s'oppose à Judith Butler, et alors elle est c'est une femme qui est une génération amicale, qui est une femme je trouve assez remarquable, mais quand elle se bat, elle a moins peur que nous de heurter, et elle y va vigoureusement. Elle s'oppose frontalement à Judith Butler en disant que justement la manière de remettre en cause l'identité masculine et féminine est une manière de cesser de pouvoir défendre la dignité des femmes. Et elle a cette formule, que je cite d'ailleurs dans mon livre, en disant « Loin d'être un féminisme subversif, c'est une subversion du féminisme ». J'ajouterai un troisième point. Il me semble important que, comme chrétiens, nous n'ayons aucun complexe dans ce domaine. Certes, l'Église en général et les clercs en particulier ont pu pactiser avec la misogynie spontanée du païen qui ne dort que trop peu en nous, mais fondamentalement, le patrimoine biblique et évangélique et même l'expérience de l'Église à travers la vie consacrée, la place qu'ont eu les mystiques, les réformatrices, comment ne pas penser à Sainte Thérèse d'Avila ici, et beaucoup d'autres. Et Michel Fourcade a cité ce matin Catherine de Sienne. On ne cesse de citer, et je le fais moi-même, Gaius du Metspes 22, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné, mais des siècles et des siècles, Catherine de Sienne avait dit la même chose. Donc la place des femmes dans le christianisme, même si, encore une fois, je ne dis pas la misogynie qui peut se glisser dans le fonctionnement clérical, est une source extraordinaire pour le monde contemporain. Et donc je trouve que le défi du rapport homme-femme aujourd'hui est d'une juste égalité qui ne soit pas identité, est une manière de sonner une fois de plus que l'heure des catholiques sonne.
Vous appelez les chrétiens donc à la proposition. Je voudrais savoir quel regard est-ce que vous portez sur le lobbying. Est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple un think tank type Terra Nova, mais avec des propositions chrétiennes confiées à des laïcs, éclairé par des évêques éventuellement. Quel regard vous porteriez sur...
Alors, c'est une bonne question. J'ai évoqué cette place croissante du monde de l'influence à propos du livre de Romero que cité involontairement dans le titre de cette contribution. Premièrement, quand on emploie le mot lobbying, il ne faut pas avoir tout de suite une vision péjorative. C'est-à-dire que faire en sorte que des groupes de réflexion transmettent aux personnes en responsabilité leurs attentes et leurs réflexions, c'est légitime. Alors, d'ailleurs, le mot plus neutre que lobbying, c'est la communication publique ou la communication institutionnelle, et c'est pas simplement une sorte d'euphémisme pour dissimuler des pratiques inacceptables, inavouables. Ça fait partie de la respiration démocratique, ça fait partie, disons, d'une meilleure prise en compte de la société civile, comme on le dit depuis quelques décennies, qu'il y ait des lieux et des occasions d'échange. Le lobbying devient coupable quand il emprunte des voies inacceptables, ce qu'il fait relativement souvent d'ailleurs, par des pressions de type financière en particulier. Pour un exemple, un parlementaire, lors de la première lecture de la révision de loi de bioéthique en 2010, s'était mis dans le groupe des députés les plus actifs et les plus enracinés. Il avait fort bien lu d'ailleurs un discours tonique que lui avaient écrit ceux qui travaillaient au quotidien avec ce groupe. Il en était très fier, il l'avait envoyé à son évêque, il me l'avait envoyé. Son évêque m'avait appelé en me disant « Ce qu'a dit le député Intel, c'est bien, tu le connais ?» Je dis « Oui. Tu crois que je peux le féliciter ?» Je dis « Oui, félicitez-le, ça l'encouragera. » Mais entre-temps, le lobby du médicament, qui est très 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 puissant, le LEM, qui finançait son journal de circonscription, lui a dit, cher ami, deux choses l'une, ou vous cessez d'exprimer des positions obscurantistes en matière de recherche sur l'embryon, ou nous cessons de financer votre journal de circonscription. Et ce député, qui est un très brave homme par ailleurs, n'a plus remis les pieds à l'Assemblée nationale pendant toute la deuxième lecture de la loi de bioéthique. Donc c'est vrai qu'il existe, c'est logique là. Alors après ça, que les chrétiens entrent dans ce jeu-là, oui, c'est important. Et ils le font déjà d'une certaine manière. Je pense que la manière dont travaille Vita, par exemple, et dans une certaine mesure aussi la Fondation Le Jeune, incarne ça. Pendant la loi de bioéthique, d'ailleurs, à un moment donné où je me suis rendu compte qu'il y avait presque trop de lobbying de chrétiens qui se faisait, donc les mêmes députés commençaient à être fatigués d'avoir à rencontrer 3 ou 4 personnes sur chaque amendement. Et du coup, j'avais pris l'initiative, à la place qui était la mienne, de réunir régulièrement ces différents groupes pour favoriser une action un peu plus concertée et du coup plus féconde. Au début, ils se regardaient, alors qu'ils se connaissent tous depuis toujours, avec un œil mauvais, parce que ils se connaissent depuis toujours, mais ils ont aussi les mêmes donateurs, et donc ils avaient besoin de manifester qu'ils étaient plus actifs que les autres pour canaliser légitimement des moyens d'action. Mais finalement, ils se sont rendus compte qu'un travail commun pouvait être utile. Dans d'autres domaines, sans doute faudrait-il un travail d'influence plus efficace et plus actif. Et d'ailleurs, le ministère qui était le mien passait aussi de temps en temps par un travail de ce type-là. Maintenant, le modèle le plus important n'est pas le lobbying. C'est le troisième et dernier point de ma réponse. C'est le think tank. Ce qu'est Terra Nova ? Terra Nova, c'est pas un lobby, c'est un think tank. C'est-à-dire un réservoir d'idées. Un lieu où s'élabore de la proposition politique. Et c'est très bien de faire un travail d'influence, mais encore faut-il savoir en vue de quoi on veut avoir de l'influence. Et donc, je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est que des lieux qui existent déjà, mais des lieux universitaires, ça peut être les universités catholiques, ça peut être des lieux comme les Bernardins, ça peut être des lieux je sais pas quoi, le Centre catholique des intellectuels français ou ce qui est devenu aujourd'hui, intègrent davantage cette capacité à proposer, pas simplement à faire se rencontrer. Nous avons beaucoup le culte de la déesse dialogue, mais peut-être pas suffisamment celui de la déesse proposition. Et donc je pense que, au-delà même du lobbying, c'est plutôt le think tank qui rassemblera et fera travailler ensemble des chrétiens.
Merci beaucoup. C'est le signe du siècle.